Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes, en partenariat avec BFM. Quid Juris, vous le savez, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit. Un podcast préparé, comme chaque semaine également, avec Elsa Franz et Camille Sarrazin. Vous écoutez et vous regardez le 105e épisode de Quid Juris. L'actualité cette semaine, c'est la réforme de la justice criminelle portée par le garde des Sceaux Gérald Darmanin, une réforme qui fait débat, polémique même, notamment à cause de sa mesure phare, le plaider coupable pour certaines affaires criminelles. Le Conseil national des barreaux, qui regroupe les 164 barreaux français, combat ce texte, a appelé à une grève reconductible. Le ministre de la Justice lui promet de trouver le meilleur consensus pour que ce texte aille à son terme. Mais que dit ce projet et pourquoi fait-il à ce point débat ? Bonjour Louis de Gauss.
Bonjour Laurent Neumann.
Vous êtes avocat, bien sûr, mais vous êtes surtout le bâtonnier de Paris, donc à ce titre le patron des 37 000 avocats.
37 000 en ce moment.
37 000 avocats parisiens. Vous êtes avocat associé au cabinet K&L Gates. Vous avez appelé les avocats à une grève reconductible à cause de cette réforme de la justice criminelle avec des mots forts. Je vais vous citer. L'instant est grave, dites-vous, car c'est la question fondamentale du juste et de l'injuste qui est aujourd'hui en danger. Alors, on va en parler ensemble, mais avant de rentrer dans le cœur de ce texte, d'abord, je voulais dire un mot de la tribune que vous avez publiée sur le site du Club des Juristes. Voilà ce que vous écrivez. « Cette réforme de la justice criminelle intervient dans un contexte particulier, écrivez-vous, où la justice est à la fois très attendue et profondément fragilisée. » Moi, j'ai envie d'ajouter qu'elle est surtout très critiquée. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut accepter parfois de la réformer.
Oui, certainement, mais la justice n'est pas immuable, il faut qu'elle suive les évolutions de la société, et ça va de soi. Là, en l'occurrence, c'est peut-être ce qu'elle n'a pas su faire et ce qui n'a pas été anticipé par nos gouvernements. C'est effectivement une certaine impéritie depuis plusieurs années dont nous héritons aujourd'hui.
D'ailleurs, vous dites dans ce même texte que, à vos yeux, la justice est surtout victime d'un manque de moyens financiers, oui. De moyens humains. C'est juste un problème de budget, la justice ?
Non, ça n'est pas juste un problème de budget, bien sûr. Et c'est pas ce que nous disons en l'occurrence sur ce texte-là, mais c'est vrai qu'il y a un manque de moyens. C'est pas nous qui le disons, d'ailleurs. Moi, j'ai parlé pendant ces quelques semaines de grève qui nous ont mobilisés, j'ai parlé notamment au président de l'USM, l'Union syndicale des magistrats. Je leur ai dit, mais finalement, vous, de votre côté, c'est quoi les moyens, qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Et il m'a été répondu très clairement, il y a 9 500 magistrats en France, 8 500 en poste en juridiction, et il m'a été répondu, toutes les études montrent qu'il en faut 20 000. Donc, deux fois plus de
ne serait-ce que pour se mettre au standard de nos voisins européens. Alors, on va faire de la pédagogie. Je vais profiter de votre présence parce que, avant de polémiquer, il faut comprendre ce qu'il y a dans ce texte. Ce texte prévoit, je le disais, l'instauration d'une procédure de plaider coupable en matière criminelle, à la condition évidemment qu'elle soit acceptée par l'ensemble des parties. On va y revenir. Cette procédure, ça existe déjà au civil, ça existe au pénal pour certains délits. La nouveauté, c'est donc de l'étendre en matière criminelle. C'est une procédure de reconnaissance de culpabilité. Avant qu'on débatte du fond, dites-moi comment ça marche, tout simplement. Si j'ai bien compris, à la fin de l'enquête, l'auteur reconnaît les faits qui lui sont reprochés et il négocie sa peine avec le parquet, mais à condition que la victime soit d'accord. J'ai bien résumé ?
Alors, oui, vous avez bien résumé, si ce n'est que ce qui est important, c'est de voir à la fois l'objectif de cette mesure et à la fois comment ça va se dérouler. L'objectif de cette mesure, c'est de régler un problème que nous reconnaissons tous, avocats, magistrats, ministres de la Justice, journalistes, tout le monde, c'est qu'il faut attendre trop longtemps pour avoir un procès.
Les délais, on va en reparler.
Les délais, bon, on en reparlera. Et là, ce qui nous est proposé, sans se plaider coupable, c'est une reconnaissance des faits après l'enquête, comme vous avez dit, mais aussi après l'instruction devant un juge d'instruction. Donc, après 4 ans, voire 5 ans, d'enquête puis d'instruction. Donc c'est déjà très long, si vous voulez. Et à partir de là, effectivement, avant d'entrer dans l'audience, le procès, qui dure en moyenne 3 jours, on aurait un plaidé coupable qui, grosso modo, au début du projet en tous les cas, revenait à dire « pas besoin d'audience, c'est reconnu ». Voilà, on se met d'accord avec le procureur pour une peine.
Alors, je le disais, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ça existe depuis 20 ans. Je crois que c'est la loi de 2004. Oui. Ça existait pour certains délits jugés par les tribunaux correctionnels. Là, l'idée du garde des Sceaux, c'est de l'étendre à certains crimes. On va voir lesquels. Mais pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, il s'agit bien de faire en sorte que le parquet, les victimes, la défense et le juge se mettent d'accord et sur la culpabilité et sur le quantum de la peine, c'est bien ça.
Oui, alors tout le monde va pas se mettre d'accord. En réalité, c'est le procureur et l'accusé, et donc avec son avocat. Alors, ceci dit, ça a un petit peu changé. Moi, je voudrais juste qu'on pose là une minute la question du consentement. Parce que se mettre d'accord, c'est consentir, c'est être en moyen de dire « oui, je suis d'accord ».
Alors, j'imagine que si vous posez la question du consentement, c'est celui de la victime.
C'est celui de l'accusé et celui de la victime. On est en matière criminelle. Donc c'est les crimes les plus graves. Bien souvent, l'accusé est en détention. En tous les cas, il n'est pas libre de ses mouvements. Et on va donc lui poser une question. Êtes-vous d'accord? Parce que sinon, il va falloir attendre un peu plus, même beaucoup plus, pour être enrôlé, pour être audiencé, pour être en procès. Soit vous dites tout de suite oui, et on vous réduit, et on part d'une peine maximum qui est seulement les deux tiers de la peine légale.
On réduit la peine d'un tiers.
On réduit la peine d'un tiers au maximum. C'est-à-dire qu'on peut encore la réduire encore, si vous êtes d'accord. Donc, voilà. Donc, les accusés vont plutôt être tentés de dire oui, si vous voulez. Est-ce que le consentement est vraiment libre et éclairé si un procureur va lui dire, même s'il y a un avocat? Malheureusement, les clients n'écoutent pas toujours leurs avocats. Et puis, la victime, ben, c'est un petit peu la même chose. La victime, c'est est-ce que vous voulez vraiment avoir un procès dans 2 ans où va falloir tout raconter, vos sévices, etc. Parce que souvent, enfin, dans 80% des cas, 70% des cas, c'est des viols dont il est question. Sinon, signez-là et ça ira bien. C'est même pas signez-là, c'est pardon. Ne vous opposez pas.
Cette question du consentement, il est parfaitement normal que vous la posiez, a fortiori en matière criminelle, parce qu'on est devant des faits très graves. Oui. Mais la question du consentement, elle se pose au civil, elle se pose pour les délits. Ça fait 20 ans que ça existe.
Alors oui, mais au civil, déjà, on est entre deux parties privées. Et donc, effectivement, il y a une négociation. Là, on n'est pas dans une négociation. Le procureur dit « c'est temps à prendre ou à laisser ». La CRPC délictuelle, c'est que pour des délits. Donc, c'est pour des peines bien inférieures. C'est 5 ans. Et c'est ce qu'il y a d'ailleurs. Vous avez parlé un peu des pays voisins. Je vous le dis tout de suite. Dans les pays voisins, la soi-disant plaidé coupable criminelle, c'est en fait le plaidé coupable délictuel que nous avons déjà.
Alors, c'est pas tout à fait vrai en Espagne. Vous parlez des voisins. On va prendre cet exemple-là. Ouais. La moindre des choses, c'est qu'on peut se mettre d'accord, vous et moi, pour dire que l'Espagne est plutôt en pointe dans la lutte contre les violences sexuelles. Alors, et pour autant, le plaidé coupable existe pour ces matières-là depuis 2 ans maintenant.
Non, depuis le début 2025 seulement en Espagne.
C'est vrai, depuis 1 an, pardon, et pas 2 ans. En fait, la loi a été votée en 24 et elle est entrée en vigueur en 2025. Uh-huh. Mais ça existe. Pourquoi ce qui existe
alors,
en Espagne ?
Ça existe qu'en Espagne et que pour les violences
ça
sexuelles.
Ça existe aux États-Unis, et... ça existe
alors,
dans...
Alors, aux États-Unis, moi je peux en parler aussi, il n'y a pas de problème. On peut faire tous les... Je suis comparatiste, donc on peut faire tous les pays, si vous voulez. Non, mais en Espagne, jusqu'en 2024, et les seules statistiques que nous avons d'ailleurs, c'est la CRPC, donc le plaidé coupable délictuel, que nous avons aussi en France depuis 2004. C'est la même chose. Effectivement, en 2025, nouvelle loi mise en application pour s'étendre aux violences sexuelles. On n'a pas encore les chiffres. On n'a pas de recul, on ne sait pas comment ça se passe. Ce qu'on sait en revanche en Espagne, c'est qu'il y a des juridictions spécialisées, de juges spécialisés dans la négociation. C'est pour les violences intrafamiliales et intrafamiliales seulement. Donc, on est sur les violences conjugales, on dira simplement. Et effectivement, on a des juges spécialisés qui sont aussi négociateurs et on a des vrais mécanismes de négociation. Rendez-vous compte que, par exemple, le juge peut regarder derrière un miroir sans teint l'audition de la victime qui serait interrogée par un psychologue. Enfin, on est dans des procédures en Espagne qui n'ont rien à voir avec les procédures que nous connaissons en France.
Alors attendez, parce que la loi n'est pas votée en France encore. Donc,
En France, il n'y a pas de ça.
Voilà, exactement. Moi, ce que j'ai regardé, je reviens à la situation française, c'est qu'il y a à peu près 6000 dossiers criminels en attente. 6000. Avec des délais d'attente extrêmement longs. C'est 6 ans en moyenne pour un viol, c'est 8 ans pour une affaire de narcotrafic.
On est d'accord,
ceux qui nous écoutent doivent se dire, c'est pas possible.
C'est pas possible.
C'est pas la justice. Or, quand on regarde, cette procédure de plaidé coupable, elle ne s'appliquerait qu'entre 10 et 20% de ces 6000 affaires. C'est pas pour toutes ces affaires.
Alors, très loin de là. Là aussi, c'est une.
Vous pensez que c'est encore moins que ça ?
C'est une grande déception, mais moi, j'étais à la séance nocturne au Sénat.
On va en parler de ce qui s'est passé au Sénat.
J'y étais. Et d'emblée, première séance au Sénat nocturne, clairement, lundi soir, le garde des Sceaux était là. On a reparlé de ces 6000 affaires en stock. On nous a dit 10-15%. Donc, on a dit, c'est combien ? C'était plutôt 10%, donc 600. Et puis là-dedans, pour avoir l'accord de tout le monde, c'est plutôt quoi ? C'est les 600 ou pas les 600 ? Ça a été posé par une sénatrice comme question, et c'est plutôt un tiers des 600. Donc on parle de 200 dossiers.
Mais je pourrais vous retourner l'argument. Si on ne parle que de 200 dossiers, ça ne réduira sans doute pas les délais, mais ça ne mérite peut-être pas tous les mots qu'on a entendus sur ce projet de loi.
Je peux retourner aussi l'argument. Dans ces cas-là, une erreur judiciaire, c'est qu'une erreur judiciaire. Un innocent en prison, c'est qu'un seul innocent en prison. Il y a quand même des questions de principe derrière.
Bien, j'entends. Vous parliez du Sénat. J'ai suivi moi aussi les discussions au Sénat, le texte a passé la rampe de ce qu'on appelle la commission des lois, et puis finalement le texte a été voté, et le texte n'y ressemble pas exactement au texte déposé par le garde des Sceaux.
C'est vrai.
D'où ma question, je vous cite tout ce qui a été modifié. D'abord, la procédure ne concernera que les affaires où il y a un seul auteur, les affaires où il n'y a qu'une seule victime. Le Sénat a allongé de 10 à 20 jours les délais dont disposera l'accusé pour donner son accord à la procédure. Par ailleurs, parce que je sais que vous vous attachez au symbole, l'audience d'homologation de la procédure s'appellera désormais « audience solennelle des crimes reconnus ». Quand vous voyez tous les changements qui ont été appliqués au Sénat, vous êtes encore vent debout contre cette réforme ?
Effectivement,
ça change la donne, tout ce que je viens de dire.
Ça change un peu la donne, c'est-à-dire que nous avons fini une séquence, parlons vrai, qui s'est terminée avec le Sénat. Aujourd'hui, les barreaux, y compris mon barreau de Paris, il faut qu'on prenne le texte issu du Sénat et qu'on l'étudie pour voir effectivement quelles sont les avancées qu'il y a eu grâce aux sénateurs. Et on reconnaît qu'il y a eu des avancées. Grâce au sénateur. Ce que vous dites sur l'audience, nous étions vent debout contre cette audience d'homologation qui ressemblait à un coup de tampon. Si c'est une audience solennelle de jugement...
Des crimes reconnus.
Oui, des crimes reconnus, mais une audience solennelle de jugement, ai-je entendu aussi. Bon, si on est dans un jugement et que c'est une audience de jugement, dans ces cas-là, c'est plus une audience de quelques heures. C'est une vraie audience, j'ai entendu qu'on allait entendre des témoins, des experts, la parole de la victime, la personnalité de l'accusé. Donc on se retrouve avec une audience qui finalement sera comme une audience normale, sauf que, c'est ce que je comprends, mais il faut investiguer justement. Ce que je comprends, c'est sauf que on ne parlera pas des faits puisqu'ils sont reconnus. Donc, on va s'économiser cette partie-là des faits.
Alors, puisqu'il s'agit de réduire les délais, Louis de Gauss, il s'agit en fait de réduire deux délais. D'abord, le délai entre la fin de l'instruction et le procès, et puis de réduire aussi la durée de l'audience elle-même. En général, dans ce genre d'affaires, les audiences durent 2 ou 3 jours. Là, il s'agit de la ramener à une demi-journée. Donc on se dit...
Pardon Laurent, mais moi ce que je comprends, c'est qu'une demi-journée, c'était l'audience d'homologation. Une audience solennelle de jugement, c'est pas une demi-journée.
Donc ce sera une journée.
Ça sera une journée ou une journée et demie.
Donc, on ne réduira pas le temps de l'audience.
De la demi-journée qui était consacrée ou de la journée qui était consacrée au fait.
Donc, ça fait tomber un de vos arguments, si vous me permettez, qui était de dire c'est une justice expéditive. Ça ne l'est plus, du coup.
Un de nos arguments et une de nos oppositions très fermes était qu'il n'y avait plus d'audience, donc plus de contradictoire, donc plus de parole. Donc plus cet argument-là
est tombé.
Donc ça, effectivement, cet argument devient moins fort, puisque on se retrouve finalement, satisfait, le mot est fort, mais en tous les cas, un peu plus rassuré. Bon, mais encore faut-il investiguer ce que veut dire effectivement cette histoire d'audience.
Hein. Alors, on va être honnête, hein, c'est pas le seul argument que vous avancez, il y en a d'autres, et notamment celui-là. Vous dites... En gros, cette procédure de plaider coupable aux criminaux, pour des crimes assez graves, ben ça risque de mettre en cause les droits de la défense et les droits de la victime. Mais moi, je vous inverse, je repose la question à l'envers. En quoi les droits de la défense ou de la victime seraient bafoués dès lors que si la victime s'y oppose, elle peut se rétracter à tout moment et revenir à la procédure normale, donc à un procès en bonne et due forme. Donc, en quoi les droits de la victime ou de la défense seraient bafoués ?
Alors, peut-être est-on trop méfiant, nous, les avocats professionnels du droit, parce qu'on en a vu d'autres et parce qu'on se dit, une fois qu'on a ouvert la porte, on pourrait fort en profiter pour faire d'autres choses. Ça revient à la question qu'on a vue tout à l'heure, la question du consentement. Et ça revient aussi à la question de l'utilité de cette procédure. Ça me paraît assez bizarre de me dire, bah écoutez, la victime aura consenti, mais il n'y a pas de problème, elle peut se rétracter. Et dans ces cas-là, on repart sur un circuit normal, donc long.
Donc les droits de la défense et de la victime sont protégés pour le coup.
Oui, mais je pense qu'on va s'assurer effectivement du consentement de la victime avant. On va bien lui faire écrire quelque chose pour éviter qu'elle se rétracte. De plus, on n'en a pas parlé, mais un des amendements du Sénat, les amendements du Sénat, grosso modo, me paraissent assez bons. Sauf un, justement, qui concerne la victime, qui est celui selon lequel le procureur va aller voir d'abord la victime, pour recueillir d'abord le consentement de la victime. Le procureur va aller voir hors l'accusé. Donc voilà, je compte proposer à l'accusé, votre présumé violeur, parce qu'il a reconnu les faits, hein, donc. Bon, je compte lui proposer tant. Est-ce que vous êtes d'accord? La victime, non, je trouve que c'est quand même pas cher payé. Donc, première hallucination de ma part, depuis quand la victime, une personne individuelle qui doit être respectée, bien sûr, et qui a beaucoup souffert, mais depuis quand remplace-t-elle la société française, le peuple français? C'est lui qui est souverain. Il y a une question de souveraineté là du peuple.
On est à contre-emploi là. Vous êtes en train de dire qu'on donnerait trop de droits à la victime.
Alors, en ce qui concerne,
c'est étonnant de la part d'un avocat.
Non, je suis pour la parole de la victime, mais je ne suis pas pour que la victime devienne juge et partie. C'est une partie civile. Personne ne doit être juge et partie. Donc, cette première entrevue avec le procureur, moi, je trouve que ça n'est pas normal. Ça n'est pas dans tous nos principes juridiques, ça n'est pas normal. Et deuxièmement, comme ça aura été négocié d'abord avec la victime, et qu'ensuite on va proposer à prendre ou à laisser à l'accusé, comment la victime pourrait-elle se rétracter ensuite ? Son consentement aura été préalable. Préalable même au consentement de l'accusé, à qui, lui, on va pouvoir tordre le bras, parce que sinon, prison plus longue, etc. Non, pardonnez-moi, là-dessus, je trouve que l'amendement sénatorial est moins bon, c'est étonnant, que la situation précédente.
Bien, on est là pour en parler, pour essayer de faire la pédagogie de ce texte. Il y a un autre article que le site du Club des juristes a publié cette semaine, c'est celui du professeur Jean-Baptiste Perrier.
Oui.
Vous allez être content, il est plutôt d'accord avec vous, oui. Il dit comme vous, ce texte ne contribuera pas à réduire les délais, à désengorger les tribunaux. Mais il dit aussi, je voudrais vous citer sa phrase, dans certaines situations, dit-il, une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle peut se révéler utile quand les faits sont reconnus spontanément et sans ambiguïté par leur auteur, quand le procès criminel risque de constituer une épreuve inutilement douloureuse pour la victime, qui devra revivre publiquement un traumatisme que l'accusé ne conteste pas. Alors, une procédure simplifiée peut servir les intérêts de toutes les parties. Moi qui ne suis pas juriste, vu de l'extérieur, je me dis, mais c'est le bon sens.
Oui, alors il y a un côté bon sens, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire ça concerne 200 dossiers sur 6000, qu'est-ce qu'on fait des 5800 autres, je ne sais pas. Ça c'est ma première réponse. La deuxième réponse quand même, qui me paraît la plus importante, c'est que effectivement, que ce soit avec le professeur Perrier, mais aussi avec madame la sénatrice rapporteure de la loi au Sénat, madame Vérien, nous sommes tous d'accord, tous les trois en tous les cas, nous sommes d'accord pour dire que ce projet de loi ne réglera pas la question structurelle des 6000 dossiers en stock, de la et même de la lenteur de la justice.
C'est un instrument de plus.
Donc c'est un instrument de plus, d'accord, mais c'est un instrument de plus qui, attention, ouvre une porte où le consentement est fragile, où la justice peut être plus expéditive. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un gouvernement, on a une France en 2026 qui est dans un certain état. En 2027 ou en 2028, il y aura peut-être la France dans un autre état, avec un autre gouvernement. Donc moi je veux bien qu'on ouvre des outils. Je veux bien qu'on ouvre des outils, mais on ouvre des outils en se disant que rien ne changera jamais.
Ben justement, encore un mot là-dessus. Vous avez vu, Gérald Darmanin dit partout qu'il veut trouver une forme de consensus. Il a dit qu'il avait entendu la colère des avocats, qui sont en grève, donc, et il a écrit au Conseil national des barreaux en disant bah, « Faites-moi des propositions, ce texte, il va quitter le Sénat pour aller à l'Assemblée nationale, il va y avoir donc une discussion parlementaire. Pour que la discussion ait lieu, bah, encore faut-il qu'il y ait des propositions. Est-ce que vous allez saisir la main que vous tend le garde des Sceaux en lui faisant des propositions pour améliorer ce texte ?»
Alors, je crois que jusqu'à présent, effectivement, la profession était en colère. Donc, elle n'était pas en mesure de faire d'autres propositions ou de contre-propositions sur ce texte, qui est, et je l'ai dit...
Mais maintenant que vous êtes venu me voir dans Coup de juriste, oui, la colère est un peu retombée.
Bien sûr, la poussière est en train de retomber, voilà. Naturellement.
Et donc, vous pouvez peut-être faire des propositions.
Oui, c'est tout à fait possible, probable, mais pour l'instant, ce qu'il va surtout falloir, c'est étudier le texte tel qu'il sort du Sénat. D'abord, pour pouvoir en apprécier les tenants et aboutissants, puis ensuite, on va voir ce qu'on en fait. Mais ce que j'ai déjà dit dans d'autres colonnes, dans d'autres médias, c'est que négocier sur ce texte sera très difficile. Moi, je pense qu'il faut réinventer peut-être des solutions. Il n'y a pas que le plaidé coupable dans ce texte. Le plaidé coupable, tout le monde en parle, ça a déjà... un peu, même pas mal
évolué.
Il y a la
légalisation de la généalogie génétique, il y a l'accès aux fichiers, il y a la composition des juridictions criminelles,
il y a énormément de sujets. Il y a le régime de nullité.
Il y a le régime de nullité, absolument.
Le régime de nullité fait très peur. Le régime de nullité, je vous prends une minute, juste.
On passe de 6 à 3 mois à compter de l'interrogatoire de première comparution, pour donc on abaisse le délai pour soulever des exceptions de nullité.
Exactement. On divise par 2 le délai.
Et là, vous allez me dire, c'est une atteinte au droit de la défense.
Oui, parce que ça devient très difficilement praticable. Et il n'y a pas que l'abaissement de diviser par 2 le délai pour porter des nullités, pour soulever des nullités. Il y a le fait qu'en plus, ces nullités doivent être soulevées avant un délai butoir, avant l'audience. Alors qu'on pouvait les soulever jusqu'à l'audience. Donc maintenant, il faut les soulever soit 5 jours, soit 3 jours avant l'audience. Alors que le procureur n'a pas. Hein. C'est là aussi une rupture d'égalité. Mais bon, peu importe. Mais en tout état de cause, effectivement, ça rend très impraticable. Or, les nullités... Les nullités, ça n'est pas forcément un moyen de défense, ça peut être vu comme ça. Les nullités, pour un avocat, c'est sa mission de vigie des libertés et de la légalité. Les nullités, c'est une faute qui a été commise lors de l'affaire en violation de la loi. Ça n'est pas favorable à l'un ou à l'autre, c'est quelque chose qui est interdit et donc qui rend la procédure nulle.
Enfin, en tout cas, je note que vous êtes prêt désormais à répondre à la demande du garde des Sceaux et à faire des propositions pour améliorer ce texte. Mais je note aussi qu'un certain nombre de vos confrères vont encore plus loin que les critiques que vous venez de faire. Ils disent que ce texte serait contraire à l'état de droit, l'état de droit en danger. Ben justement, c'est la deuxième partie de Quid Juris.
Quid Juris, Laurent Neumann reçoit Louis Degos, le bâtonnier de Paris.
Louis Degos, on vient de faire la pédagogie de ce texte, mais c'est vrai que certains de vos confrères vont plus loin, ils disent au fond, ça remet en cause l'état de droit. Alors là, il faut que vous m'expliquiez quelque chose que j'ai pas compris, parce que ce texte, il est passé devant le Conseil d'État qui a donné son feu vert, donc on peut en critiquer le contenu, on peut tout dire, sauf dire que c'est contraire à l'état de droit.
Bah si, on peut quand même dire que c'est contraire à l'état de droit, mais bon, c'est à une vision assez juste.
Donc le Conseil d'État aurait donné son aval à un texte contraire à l'état de droit.
Le Conseil d'État contrôle la légalité. Il ne contrôle pas si le texte est conforme ou pas à l'état de droit. Il contrôle la légalité, il a contrôlé à la légalité. Mais je vous prendrai quelques exemples très rapides. La publicité des débats, ça fait partie de l'état de droit. Or, dans la première version du texte, l'audience d'homologation... Bah, c'était une audience à la va-vite. Alors vous allez me dire, oui, elle était publique, mais comme on n'entendait personne, une audience où on n'entend rien, elle a beau être publique, il n'y a pas de publicité des débats, puisqu'il n'y a pas de débat. Donc ça, c'est pas vraiment l'état de droit. Le caractère contradictoire, bah, s'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de caractère contradictoire, on a tous compris. Et puis le caractère contradictoire, il faut que ça soit une individualisation des peines. Là, on va, et c'est notre méfiance, hein, on va se dire, bah, à force de négocier, il va y avoir une sorte de barème, hein. Puis donc l'individualisation versus barème, c'est compliqué. L'humanité du jugement, ou la dignité, c'est un principe constitutionnel, c'est l'état de droit. Regardez bien, que
en fait... En vous écoutant, pardon, oui. Je me rends compte que ce qui vous gêne dans cette histoire, c'est que pour des crimes graves, il n'y ait pas de procès, et qu'au fond, ce que vous décrivez, c'est comme si on était plus dans le domaine du contrat que du procès. Est-ce que je me trompe ?
Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça, alors qu'on est dans un domaine très grave du crime, et que le procès criminel n'est pas qu'une machine à distribuer des peines de prison. Le procès criminel a aussi une utilité sociale, une utilité éducative pour la population. Et donc, ça n'est pas juste la culture du fait divers, hein, soyons clairs. Mais effectivement, savoir que ce qui s'est passé ceci ou cela, eh bien, ça influe sur énormément de choses. Le développement de la parole des femmes, qui sont précisément en grande majorité les victimes du viol, le développement du droit des femmes, c'est aussi fait par la publicité de ces audiences criminelles. Le féminicide, il vient de là. Donc, il faut faire attention.
Pardon, vous connaissez les chiffres mieux que moi. Sur une centaine de femmes qui portent plainte, il n'y a que 10 procès à l'arrivée. Et sur ces 10 procès, il n'y a qu'une condamnation. C'est ça le sujet ?
Ben oui, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est donc le taux de réponse pénale et le taux de réponse tout court. Et donc, pardon, mais des problèmes de moyens de la justice. On revient à notre premier point. Mais bon, qu'on a déjà dit. Et après, donc, c'est des finances publiques. Et ça devient bâtimentaire même, parce qu'on n'a pas assez de salles d'audience, etc., etc.
L'état de droit, je voudrais qu'on reste sur cette idée, cette notion. Oui. Je vous apprends rien. Il est de plus en plus souvent attaqué, y compris d'ailleurs par des responsables politiques de haut rang. Vous venez de participer à un colloque sur ce thème. Vous aussi, vous êtes inquiet des atteintes récurrentes à l'état de droit. Je parle plus de ce projet de loi spécifiquement,
on parle de l'état
mais de façon générale.
D'abord, je vous remercie de parler de ce colloque que j'ai voulu d'emblée lorsque j'ai été élu et pris ma fonction de bâtonnier de Paris. Un colloque de 3 jours entiers, international, qui a réuni des intervenants de tout pays. Oui, je suis inquiet de l'état de droit. Oui, moi, issu ou ancien patron d'un cabinet d'avocats d'origine américaine, j'ai vu ce qui s'est passé en quelques jours, en quelques semaines à peine, aux États-Unis, par une administration présidentielle qui a condamné les avocats, condamné des cabinets d'avocats parce que ils avaient défendu telle ou telle cause. Oui, je vois aussi... pas que Trump, mais Viktor Orban, qui n'est plus Viktor Orban, enfin qui n'est plus depuis hier le président, mais avoir cette culture illibérale, comme on dit, bien qu'on ne sache pas trop en français ce que ça veut dire, parce que c'est de l'anglais, mais effectivement...
Donc ça veut dire, quand vous entendez des responsables politiques, notamment après le procès Le Pen, après le procès Sarkozy, parler de coup d'État judiciaire, de dictature judiciaire, de complot des juges,
oui, c'est ça
tout ça, ça vous inquiète.
Tout ça, c'est très inquiétant.
Quand vous entendez, par exemple, Bruno Retailleau dire, quand il était ministre de l'Intérieur, dire l'État de droit n'est ni sacré ni intangible, là, on est...
C'est précisément la citation de Bruno Retailleau qui m'a fait réagir, qui m'a fait dire, en tant que bâtonnier, je veux absolument faire un colloque important de 3 jours sur l'état de droit, afin d'en avoir une version, une définition définitive. Et qu'on arrête de dire n'importe quoi sur l'état de droit pendant l'année qui va venir.
Oui, l'état de droit, c'est pas l'état du droit.
L'état de droit, c'est pas l'état du droit, c'est pas un état, une nation du droit, c'est un état, un étant du droit, si on fait un peu de philosophie du droit. Donc, effectivement, c'est plusieurs caractéristiques. Ça n'est pas que les caractéristiques, hiérarchie des normes, etc., etc. Ça, c'est la définition juridique. Il y a des définitions plus dynamiques. Puis, c'est une légitimité. Et malheureusement, on l'a vu pendant ce colloque-là, il faut faire très attention à ne pas opposer l'état de droit à la démocratie, parce que la démocratie peut devenir le populisme. Enfin, ce sont des notions finalement très compliquées. Et c'est vrai que c'est difficile de pouvoir l'expliquer à la population de façon simple, mais l'état de droit, c'est aussi justement la disparition, ou plutôt la disparition de l'état de droit, c'est aussi la disparition de ces corps intermédiaires entre la population et le gouvernement, entre le haut et le bas, ces corps intermédiaires qui viennent précisément par leur indépendance, donc les juges, les avocats, qui viennent garantir que nous restons dans l'état de droit, garantir qu'il y a...
Et l'application de la séparation des pouvoirs.
La séparation des pouvoirs, la hiérarchie des normes, la démocratie.
Bah vous savez quoi, Louis de Gauche, je vous propose qu'on prenne un exemple concret. Le parquet. Ça fait des années qu'on entend dire qu'il faut changer aujourd'hui le garde des Sceaux. C'est lui qui nomme les magistrats du parquet. La loi ne prévoit qu'un avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature. En clair, même si le Conseil s'oppose à la nomination d'un magistrat, la chancellerie pourrait parfaitement passer outre. Je vous pose la question, est-ce qu'il faut que les magistrats du parquet soient nommés comme les magistrats du siège avec un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature?
Ma réponse est très courte.
En clair, est-ce qu'il faut réformer l'article 65 de la Constitution?
Oui. Oui, il faut que les magistrats du parquet soient nommés comme les magistrats du siège, c'est-à-dire peut-être par le ministre de la Justice, mais sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, du CSM. C'est d'ailleurs aussi ce qu'a dit M. Rémy Yates, qui est le procureur général de la Cour de cassation.
Qui est venu le dire à ce micro de Quid Juris il y a quelques semaines.
Et moi, je l'ai entendu lors de la cérémonie des vœux de la Cour de cassation.
Absolument.
Donc, très clairement, oui, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait cet avis conforme.
Mais j'essaye de comprendre votre propos ou votre position. Vous considérez que c'est une des vulnérabilités de notre état de droit et que si demain, vous avez cité il y a quelques instants 2027-2028, si demain venait au pouvoir un pouvoir illibéral, ce serait une faille sérieuse dans notre état de droit?
Oui, ce serait une faille très sérieuse dans notre état de droit. Je peux vous prendre l'exemple de certains pays, comme le Mexique, par exemple, qui, il n'y a pas si longtemps, il y a un an et demi, à l'occasion d'un changement de gouvernement, le gouvernement a fait un référendum, par référendum, a appelé la population pendant les 100 jours où tout va bien, en disant « Est-ce que vous êtes d'accord pour que les juges soient tous élus ?» Voilà, ils n'ont pas dit « On va les nommer ». Ils ont dit « Est-ce que vous êtes d'accord ? On va prendre votre avis et puis on nommera ceux qui sont élus ». Tous les juges professionnels qui étaient là se sont représentés à leur élection. Mais toutes les personnes du parti politique au pouvoir se sont aussi présentées en tant que juges. Aucun juge sortant n'a été réélu. Aucun. Donc toute la justice est tenue par des juges politiques soumis au pouvoir. Ben, excusez-moi, c'était une autre façon, dans un autre pays, d'avoir des juges nommés par le gouvernement au pouvoir.
Vous avez répondu de manière extrêmement pragmatique à ma question. J'ai une dernière question, parce que je ne peux pas avoir le bâtonnier de Paris en face de moi sans vous poser cette question. L'état de droit, c'est aussi comment fonctionnent les avocats.
Oui, bien sûr.
Et d'où ma question, est-ce qu'un avocat peut tout dire? Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'en marge du procès en appel des complices de l'assassin de Samuel Paty, Francis Villemain, qui est l'avocat du prédicateur Abdelhakim Sifrioui, lui-même condamné en première instance à 15 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroristes, a osé dire devant les caméras, donc hors du prétoire, que Samuel Paty, je cite, avait procédé à la discrimination des élèves musulmans. Alors certains, je le sais, appellent ça une défense de rupture. Mais ma question, c'est est-ce qu'on peut tout dire, tout se permettre quand on est avocat, y compris diffamer une victime décapitée par un terroriste islamiste?
Alors, il faut, comme vous l'avez dit, il faut distinguer hors les prétoires ou dans les prétoires. Dans les prétoires, l'avocat est immune. Il bénéficie d'une immunité. Il peut tout dire. Il peut choisir la défense qu'il souhaite. Alors, hors, naturellement, une incrimination pénale, hein, mais il peut tout dire. Il choisit sa défense. Je suis pas sûr que la défense de rupture soit toujours une bonne défense, ceci dit. Hein. Bon. En dehors des prétoires, l'avocat redevient un citoyen comme un autre, même pas tout à fait comme un autre, parce que non seulement il est soumis au droit commun, comme tout le monde, mais il est soumis aussi à sa déontologie.
dans le cas précis, il aurait pu mériter une procédure disciplinaire. D'ailleurs, est-ce qu'elle existe ? Est-ce que vous l'avez lancée ?
Dans le cas précis, il aurait pu peut-être mériter une je me souviens pas exactement des faits et de ses propos, mais de ce que vous dites, une procédure disciplinaire. Mais encore faut-il qu'on soit saisi. Là aussi, l'état de droit, c'est contre l'auto-saisine du juge.
Alors, vous avez fait la distinction. Un avocat peut tout dire quand il est dans le prétoire. Certainement pas en dehors. Il redevient citoyen.
Peut-être même moins qu'un citoyen lambda.
Mais ma question, c'est est-ce qu'il peut aussi tout dire dans le prétoire ? Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que tout le monde se souvient que le tribunal judiciaire de Paris avait condamné Gérard Depardieu à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle sur le tournage d'un film. Et dans cette décision, le tribunal avait aussi retenu que les propos tenus par la défense, en l'occurrence c'était maître Jérémy Assou, eh bien, avait contribué à une victimisation secondaire des plaignantes, comme si, au fond, c'était une forme de maltraitance de prétoire. Ce concept de victimisation secondaire, vous dites que c'est un garde-fou. Bah non, on ne peut pas tout dire et tout faire, y compris devant une cour ou un tribunal. Ou est-ce que vous dites que c'est une atteinte au droit de la défense ?
Alors, pour moi, la victimisation secondaire, c'est la fausse bonne idée par excellence. Pour moi, c'est un très mauvais concept. Si effectivement un avocat se conduit mal dans le prétoire, il peut aussi être redevable d'une justice déontologique et disciplinaire de la part du bâtonnier. Pour moi, le juge et le président d'instance fait la police de l'instance. Il n'est pas le juge des avocats à l'instance. Le juge des avocats, à l'instance, s'ils ont dépassé leur fonction, s'ils sont antidéontologiques, c'est moi, c'est le bâtonnier. Donc il y a des problèmes de compétences. Et puis je trouve que cet concept de victimisation secondaire est un concept qui peut être dévié, parce que finalement, dans ce concept-là, on est en train de dire que rendre la justice peut faire mal. Excusez-moi, mais ça part pas du bon pied.
Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Louis de Gauze d'être venu répondre à nos questions, d'avoir fait la pédagogie de ce texte, la pédagogie aussi de vos arguments, parce qu'on l'a compris, vous êtes en colère contre ce projet de loi. Je vous rappelle que ce podcast Quid Juris est disponible évidemment sur le site du Club des Juristes, sur toutes les plateformes et bien sûr sur la plateforme de notre partenaire BFM. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le 106e numéro de Quid Juris. Bonne semaine à tous.